Je suis content d'être avec vous ce matin. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour mon épouse et moi, parce que c'est notre 12e anniversaire de mariage. Alors là, j'ai des instructions très sévères de la part de mon épouse. Faut pas que je la gêne, donc je vais arrêter là. C'est un privilège pour ma famille et moi-même d'être avec vous ce matin. Et j'aimerais ouvrir... les Écritures, que nous puissions les ouvrir ensemble, que nous puissions réfléchir sur, justement, l'implantation d'Église. C'est tout un défi. On m'a posé la question une fois, Israël, pourquoi est-ce que tu crois à l'implantation d'Église? Et ma réponse est la suivante. Je crois à l'implantation d'Église parce que je crois que les chrétiens, c'est du fumier. Et quand on les met en tas, ça pue. Mais bien étendu, ça donne la vie. Donc, si vous ne voulez pas sentir mauvais, mais que vous voulez donner la vie, l'implantation d'Église, c'est pour vous. Mais en plus de ça, le Seigneur Jésus nous appelle à annoncer l'Évangile dans toutes les nations, en commençant par nos voisins. Et inutile de vous dire que je suis vraiment convaincu de l'implantation d'Église. J'ai à cœur l'implantation d'Église depuis plusieurs années. Et l'Église locale est le projet de Dieu. Et Dieu fait bien les choses. Mais quand on considère l'implantation d'Église, on est devant l'impossible. On est devant l'impossible pour plusieurs raisons. Et je suis certain que quand vous avez commencé à réfléchir, à prier, il y a toutes sortes d'obstacles qui se lèvent. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le message de ce matin, selon Luc, chapitre 18, à partir du verset 18, que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, tourne avec moi dans Luc, le chapitre 18. J'aimerais vous lire le texte sur lequel nous allons nous arrêter ce matin. Et ensuite, on va demander au Seigneur qu'il nous dirige d'une façon spéciale. Alors, un notable lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » « Pourquoi m'appelles-tu bon? » lui répondit Jésus. Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. On veut pas juger, mais je suis pas sûr, tu sais. À ces mots, Jésus lui dit, il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, l'autre fut profondément attristé, car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les auditeurs s'écrièrent, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus leur répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Seigneur Jésus, nous venons ce matin devant le Père parce que tu as ouvert le chemin par ton sacrifice. Merci que nous pouvons t'adresser la parole directement, bon Père Céleste. Merci qu'on n'a pas besoin d'avoir peur que tu ne nous écoutes pas. Merci qu'on n'a pas besoin d'avoir peur que tu nous juges. Puis on peut avoir la conviction que tu nous entends et que tu veux prendre soin de nous. Seigneur Jésus, on n'est pas ici ce matin pour entendre des paroles d'hommes. On en a entendu toute la semaine et on en a assez. On veut entendre ta parole ce matin. On veut être béni par ta personne. Touche nos cœurs, rencontre-nous, délivre-nous. Et que nous puissions ressortir joyeux de savoir qu'avec toi, il y a des choses qui sont possibles, qu'il ne le serait pas du tout si tu ne faisais pas partie de l'équation. Dirige-nous ce matin pour ta gloire. Amen. C'est quoi ça? C'est de l'argent! Hey, j'étais bon baptiste, hein, c'est la première fois que je prêche site, puis déjà j'ai de l'argent dans les mains. Qui en veut? Wow! On va pas casser le projecteur! Hey, vous êtes là, là, puis hey, on est d'une église ici, là. Hey, il faudrait pas que je sois vu à vouloir de l'argent. Si mon voisin me verrait m'étirer pour le pogner, l'argent. Saviez-vous que je viens de vous lancer le salaire moyen de 42% des hommes et des femmes qui vivent sur cette terre? 2 dollars américains ou canadiens, vu qu'on est pas mal proches, c'est en site, équivaut au salaire moyen. Mais pour que 2 dollars équivaut au salaire moyen, c'est parce qu'il y en a qui gagnent pas mal moins. Mais bien entendu, il y en a qui gagnent un peu plus. Et si on aurait fait, si j'aurais fait la même chose, je sais pas moi, aux Philippines ou au Honduras ou dans quelques pays d'Afrique, le culte aurait complètement arrêté, les gens seraient à quatre pattes en train de chercher l'argent parce que on fait pas une telle chose. On en a pas beaucoup. On fait attention. Hey, même moi qui est pasteur, je suis capable de me débarrasser de 2 piastres, on va besoin de checker dans mon budget. Si vous êtes sur le bien-être social ou si vous travaillez à un salaire minimum et que vous avez de la misère à ramasser l'argent pour payer votre loyer au fin de mois, puis que vous grattez pour pouvoir manger à tous les jours, savez-vous que vous êtes plus riche que le 2/3 des hommes et des femmes sur cette terre? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la majorité d'entre nous, et moi le premier, quand je lis le texte que je vous ai lu ce matin, je suis pas capable de me l'appliquer parce que je suis pas riche. Du moins, c'est ce que je pense. Mais quand on fait partie de l'élite du 25%, quand la classe de la société dans laquelle on est gère 25% de l'argent mondial, je pense qu'on peut dire qu'on est riche. Mais si on est riche, le texte suivant s'applique à votre vie, s'applique à ma vie. Vous savez, on a de la difficulté à penser que le Seigneur Jésus peut me regarder dans les yeux et me demander de tout vendre. On a de la difficulté à s'imaginer que le Seigneur Jésus pourrait me demander un tel engagement. Oh, minute les nerfs! Tu penses-tu vraiment que le Seigneur, il peut me pousser jusque-là? Je sais pas, on vient de le lire ensemble, ce que vous en pensez. On est gêné. Et on n'ose pas regarder le Seigneur dans les yeux. Non, on est gêné du Seigneur. On veut savoir ce qu'il veut. Vous savez, mes enfants croisent mon regard. Mais des fois, quand ils croisent mon regard, leurs yeux sont pétillants. Puis des fois, quand ils croisent mon regard, c'est ça qu'ils font. Et ce matin, là, on a lu un texte et on a deux possibilités. On peut croiser le regard du Seigneur Jésus et dire, oh, 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 il me parle. Ou, qui parle? L'impossibilité de ce texte. L'impossibilité de ce texte n'est pas, par exemple, une personne qui serait malade, que les médecins lui disent, on ne peut plus rien faire pour toi, et que là, cette personne-là se tourne vers le Seigneur et dit, Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. C'est vrai! Mais ce n'est pas l'impossibilité de ce texte. Je peux être devant un défi financier, je peux être devant toutes sortes de défis et faire appel au Seigneur parce que c'est impossible pour moi et j'espère qu'il intervienne. Mais l'impossibilité de ce texte est tout autre. L'impossibilité de ce texte, c'est que je sois totalement libre de dispenser de tout ce que j'ai pour pouvoir suivre le Seigneur Jésus. Ça, c'est totalement impossible. C'est totalement impossible. Il n'y a pas personne, sans exception, qui peut se vanter de dire « Ma maison n'a aucun attachement sur moi. Mon auto n'a aucun attachement sur moi. Mon compte de banque, mon fonds de retraite n'a aucun attachement sur moi. » Il n'y a personne qui peut dire ça. Moi, je ne peux pas le dire. Si, savez-vous, ça devrait être quoi notre prière? Seigneur, au secours, on est devant l'impossible. On est devant l'impossible. Il y a un jour, un cochon puis une poule qui prenaient une marche au centre-ville de Montréal. Je sais, c'est un petit peu bizarre, là, ça arrive des fois. Ils arrivent devant une pancarte de l'armée du salut, et sur la pancarte, il est écrit de donner de la nourriture pour les pauvres. La grande guignolée. Alors là, la poule et le cochon commencent à discuter ensemble sur qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire pour participer. Puis tout d'un coup, la poule, elle a eu une idée extraordinaire. Elle a dit au cochon, « Moi, je vais donner des œufs, puis toi, tu vas donner du bacon. » C'est ce que Jésus est en train de demander au jeune homme riche. « Je veux ton bacon. » Puis je le veux tout. Je le veux tout. La morale de cette histoire, il ne faut pas servir Dieu comme des poules, il faut servir Dieu comme des cochons. Rappelez-vous-en. C'est très important. C'est très important. Ben voyons donc, tu m'as dit tantôt là, que tu allais parler de plantation d'église. Ouais. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Parce que l'implantation d'église demande un sacrifice collectif qui est impossible à faire. L'implantation d'église, dans le but d'atteindre des gens avec le Seigneur Jésus, demande un sacrifice collectif qui nous est totalement impossible à faire. Ce n'est pas logique pour une église que de laisser partir un bon morceau de ses membres, de ses offrandes. Oups, je ne fallait pas le dire. C'est pas logique. Qu'est-ce qu'on va faire? Hey, c'est notre bacon qui part! Ça demande des sacrifices. Donner la vie, ça coûte cher. Donner la vie, ça demande une implication. Ça demande une unité. Ça demande un cœur qui est prêt à tout sacrifier. Mon beau-père, il était gérant de banque pendant plusieurs années. Il est encore dans le milieu banquier. Et je discutais avec lui il y a une couple de semaines. Et il m'a raconté de quoi que j'ai trouvé bien intéressant. Vous savez, on dit souvent, ben, je vais servir plus tard. Là, ce que je suis en train de faire, là, c'est que je suis en train de m'équiper puis de mettre de l'argent de côté pour pouvoir servir plus tard. Et pour une raison ou une autre, à toutes les fois qu'il y a un sacrifice que le Seigneur nous présente, on se dit toujours « oui, mais plus tard ». C'est plus gentil que de dire carrément « non », mais ça se ressemble. Et là, il me donnait l'exemple lui, il conseille des gens financièrement. Et il y avait des gens qui voulaient voyager. Alors, toute leur vie, là, ils ont mis des économies pour pouvoir voyager. Puis toute leur vie, ils ont gratté pour avoir une retraite libre. Et savez-vous ce qui est arrivé? Alors, rendu à la retraite, il était en parfaite santé. Il avait le compte de banque bien plein. Mais il n'était pas capable de voyager parce qu'il avait gratté toute leur vie. Et on pense comme ça. On pense comme ça. Mais si dans ma préparation, je commence pas déjà à sacrifier, c'est pas vrai que demain je vais sacrifier. Puis c'est pas vrai qu'après-demain je vais sacrifier. Alors un conseil pour ceux qui veulent voyager à leur retraite, commencez tout de suite. Sinon vous pourrez pas voyager plus tard. Vous voulez servir le Seigneur demain? Commencez aujourd'hui. Peut-être pas de la même façon, mais commencez aujourd'hui. Attendez pas à demain. C'est impossible. Impossible d'être libre. Après le numéro 18, il vient le numéro. Ouais. Et dans le chapitre 19, on a l'histoire de... T'es tout petit, il est grimpé dans un arbre. Comment il s'appelle? Zachée. Zachée était un petit homme, un tout petit homme, il était. Il monta dans un sycomore pour voir passer Jésus, pour voir passer Jésus. Un jour, Jésus passa par là et dit, « Zachée, descends, car aujourd'hui je vais chez toi, car aujourd'hui je vais chez toi. » Je viens de vous raconter l'histoire de Zachée. Une merveilleuse histoire. Complètement impossible. Un collectionneur de taxes qui s'était enrichi par la fraude toute sa vie. Qu'est-ce que vous voulez? Il brossait de l'argent. C'est tellement facile d'en prendre un petit peu puis d'en mettre dans ses poches, il faut bien l'excuser. Mais un jour, il a entendu parler d'un personnage qui l'a tellement intrigué qu'il a décidé de mettre de côté son travail. Et il s'est humilié de monter dans un arbre. Hey, il y a un collectionneur de taxes pour l'Empire romain, là. Ça monte pas d'un arbre. Ça reste les deux pieds à terre. À moins qu'il y ait quelque chose de vraiment spécial qui s'est passé. Il voulait rencontrer quelqu'un. Il voulait rencontrer quelqu'un. Et une fois que Jésus lui dit de descendre, Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, le verset 8, « Écoute, maître, je te donne la moitié de mes biens, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai trop pris d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois. Je lui rends quatre fois. » Il y a un miracle impossible qui vient de se passer dans la vie de ce fonctionnaire-là. Ben oui, même les fonctionnaires peuvent être sauvés. On en a la preuve ici. Zachée, parce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus, est devenu totalement libre de toutes les richesses qu'il avait. Il a dit, mais non, il a dit qu'il en donnait juste la moitié. Oui, mais quand tu donnes toute la moitié de ce que tu as, puis tu gardes l'autre moitié pour rembourser quatre fois ce que tu as volé toute ta vie, je ne pense pas qu'en bout de ligne, il t'en reste beaucoup. Zachée a ouvert ses mains devant le Seigneur. Il dit, prends ce que tu as à prendre. Je te le donne. Il dit, Israël, qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas de sens. Voyons donc, là, écoute, ça se bâtit avec de l'argent, ça. Puis ça aussi, un tapis, ça coûte de quoi? Puis le micro, ça coûte quelque chose. Je rencontrais un jeune homme, il y a à peu près un an et demi, deux ans. Et ce jeune homme-là, il réussit très bien l'école. Très bien dans le domaine des finances. Il est en train de travailler à l'université. Il va chercher son CMA. Il a des notes incroyables. Et là, il me dit, Israël, il dit là, il dit, je me sens coupable. Il dit, je me sens coupable parce que là, j'ai des opportunités d'emploi, puis je pense que je vais devenir riche. Mais là, il dit, je peux pas, là, je peux pas faire ça, là. Il dit, à ta minute, là. Attends une minute. Il y a quelque chose d'impossible qui est devant toi. Peut-être que tu vas faire de l'argent, on ne sait pas, là, tu sais, il peut tomber malade, plein de choses peuvent arriver. Mais tu as besoin d'être préparé que quand tu vas faire de l'argent, tu vas en être libre. Et pour que ce miracle-là se produise dans ta vie, tu as besoin d'être attaché au Seigneur Jésus maintenant. Parce que je lui ai dit, je n'ai pas besoin de te sentir coupable si le Seigneur t'a donné des talents. Utilise-les, tes talents, fais-en de l'argent, mais n'en deviens pas esclave. Mais ça, c'est une contradiction humaine. Tu ne peux pas regarder quelqu'un et lui dire, fais de l'argent, mais ne sois-en pas esclave. C'est impossible si le Seigneur Jésus n'est pas dans l'équation. C'est impossible. On ne peut pas demander à une église de dire, grandissez en nombre, mais soyez pas content ou esclave du nombre duquel vous êtes rendu. Mais non, on veut pas diminuer, on veut grandir. Mais là, par l'implantation d'église, on fait le contraire. On pense qu'on fait le contraire. On pense qu'on fait le contraire. Jusqu'à quelle heure, moi, là? 11h15? Non, sérieux? C'est ça? Super. Une des raisons, une des preuves que nous sommes esclaves des richesses. Vous savez, dans la vie, on a besoin d'être mis devant des murs, des fois. On a besoin d'être mis dans un coin devant une preuve de laquelle on ne peut pas contourner. Et j'aimerais que vous puissiez sortir d'ici en vous disant la même chose que les gens qui ont entendu Jésus parler. « Oui, mais c'est qui peut être sauvé? C'est impossible! » J'aimerais ça que vous puissiez avoir la même réflexion. « Hey, c'est impossible! » Parce que s'il faut être libre de l'argent pour être sauvé, c'est impossible d'être libre de l'argent. Une des preuves que nous sommes esclaves des richesses, c'est que nous rendons Dieu coupable de notre confort en disant « Je suis béni par le Seigneur. » Et là, on fait comme calmer sa conscience. Parce que ce qu'on a vient de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Amen, hein? À moins que vous êtes des fraudeurs et que vous volez, là. Ben là, on peut peut-être discuter si ça vient de Dieu ou pas, là. Mais qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en orgueilles-tu? Donc, on est d'accord là-dessus. Mais on met ça sur le dos de la bénédiction de Dieu. Dieu m'a béni, moi. Je ne suis pas pour pas le laisser faire. Je ne suis pas pour l'arrêter. Et là, on dit, ah, il faut que je sois un bon gestionnaire de ce que Dieu m'a donné pour que je puisse en avoir plus demain. Non. Dieu te bénit, amen. Mais, essaie pas de rendre Dieu complice de ton esclavage. Puis on entend ça à toutes les sauces, hein? On entend ça à toutes les sauces. Oh, c'est pas de ma faute, c'est Dieu qui m'a fait de même. Et puis là, on rend Dieu coupable de tous nos défauts. Et on veut pas avoir besoin de se repentir. On veut pas avoir besoin de tomber à genoux devant le Seigneur puis lui dire, oui, c'est vrai, je suis esclave du péché. Je suis esclave de la richesse. La clé d'une liberté complète des richesses et leur confort est une saine définition de la bonté et des bénédictions de Dieu. Si je veux être totalement libéré, la clé, c'est une bonne définition de la bonté de Dieu. Si je saisis d'une façon adéquate, si je suis saisi dans mon cœur de la bonté de Dieu, cela devrait mettre de la dynamite dans les chaînes qui entourent mon cœur. Le jeune homme riche est venu voir Jésus puis lui dit, « Bon maître! » Mais la définition de cet homme, de la bonté du personnage qui était devant lui, était erronée. Tandis que Nicodème, lui, une perspective totalement différente. Quand il a été saisi par la bonté de Dieu, cela l'a complètement libéré. Mon verset préféré se trouve dans Jean, le chapitre 3. Et là, vous pensez que je vais dire 16, hein? Non, c'est pas ça. C'est juste après. Vous pouvez tout réciter Jean 3, 16. Est-ce que vous pouvez réciter Jean 3, 17? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si j'ai une mauvaise perspective de la bonté de Dieu, je ne comprendrai pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi quand il me donne quelque chose. Si je comprends bien que l'objectif de Dieu, c'est d'envoyer Jésus pour que mon voisin ne soit pas jugé par Dieu. Si je comprends que c'est ça l'acte de la bonté de Dieu même, et que l'ultime bonté de Dieu n'est pas le fait que j'ai un peu plus d'argent dans mes poches que mon voisin. Cela met une bombe dans toute la façon que je vais penser. François Deschamps a été mon coach à Rock Forest quand j'étais en pasteur en formation là-bas. Et il me parlait de son coach à lui, M. Phillips. Et c'était très intéressant d'entendre François Deschamps parler. Ça m'a toujours accroché. Il disait, à un moment donné, M. Phillips, il me tapait un peu ses nerfs. Parce qu'à toutes les fois qu'il y avait un défi, peu importe le défi, il disait, on a Jésus. Et pour M. Phillips, c'était satisfaisant. Ah, c'est ça que François me rapporte, là. J'ai pas parlé de cela avec M. Phillips. Et à force d'entendre parler M. Phillips comme ça, à un moment donné, François Deschamps y a compris. Et un jour, moi aussi, dans ma vie, j'ai compris. Pas à 100%, là, je l'apprends encore. Mais j'ai été saisi par la bonté de Dieu. En panne sur le bord du chemin. Gasquette de tête sautée. Pas d'argent dans les poches pour le réparer. Pas d'argent pour payer le towing. Stressé par-dessus stressé. Hey! J'ai Jésus, moi. J'ai Jésus. Ça change la perspective complètement. Ça change la perspective complètement. Quand on a choisi de commencer à adopter des enfants, j'ai pas des 30 000 piastres, moi, qui me sortent par les oreilles. Mais j'ai lu dans Jacques que c'est écrit que la vraie religion, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Alors, Seigneur, si tu veux que je prenne soin des orphelins, je suis disponible. Et on a commencé à prier, puis demander au Seigneur, ben, je veux prendre soin. On reçoit un courriel. À peu près un mois après cette prière-là. On avait informé l'agence d'adoption. Ben, gardez, on veut aider. Si vous pensez qu'on peut aider, dites-nous comment faire. Dites-nous ce qu'on peut faire. On reçoit un courriel. Il y a un petit gars autiste au Vietnam qui a été abandonné par ses parents adoptifs qui sont allés le chercher. Puis il n'y a pas personne qui en veut. Oui, là, il faut aller le chercher. C'est quoi de l'argent? J'ai pas d'économie, là. Je viens juste de le dire, là. Je viens juste de prier. Là. Qu'est-ce que je fais? Vous avez une réponse là. Il dit, on a passé au travers de toute notre liste, là. Il y a 130 personnes sur la liste d'adoption, puis ils ont tout appelé tout le monde. Étant donné que nous autres, on était les derniers à avoir dit qu'on voulait aider, ils ont appelé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Le Seigneur a pour vous, a pourvu d'une façon que je peux même pas vous expliquer. C'est incroyable, c'est toute une histoire. Mais on a choisi, Dieu a pourvu. Et en bout de ligne, ce qui est sorti de mes poches, à peine 2000 piastres. Incroyable. Non, mais c'est incroyable pour une adoption internationale. Puis en plus, savez-vous quoi? On l'a amené à Sainte-Justine pour être évalué par le docteur Chicoine. Il est en parfaite santé. Il est surdoué. Ce qui fait que quand il était bébé, il faisait des crises qui ressemblaient à un autiste parce qu'il était plus conscient de son environnement qu'un enfant moyen. Voilà un an et demi. On reçoit un autre coup de téléphone. OK? On a un petit gars. Il était abandonné à la naissance dans un sac de plastique au dépotoir. Il manquait d'oxygène. Il n'y a personne qui en veut. Je dis à mon épouse, on va attendre un peu pour être sûr qu'il n'y a personne qui en veut. Six mois après, Lise Francis, la femme de John Francis, pasteur à Chibougamo, si je ne me trompe pas, elle appelle chez nous. Elle dit, Israël, elle dit, on a une dame ici à l'église, elle parle espagnol, puis je suis pas sûr, mais elle avait une relation avec un médecin qui avait déjà adopté des enfants, puis ce médecin-là était au courant de ce qui se passait avec ce petit gars-là au Honduras, a parlé à cette dame-là, puis là, Lise Francis s'est informée, puis elle s'est dit, il faut trouver une famille pour cet enfant-là. Fait qu'elle nous appelle, puis elle dit, Israël, elle dit, on le sait que vous avez adopté, puis on se demandait si vous vouliez nous aider à trouver une famille pour cet enfant-là. J'ai dit, t'as pas besoin de me conter son histoire, on est déjà au courant. Ben, on a déjà sauté, on a déjà marché sur l'eau une fois, peut-être que le Seigneur il va le faire deux fois. Alors, on a avancé. Toutes les étapes, les travailleurs sociaux, les évaluations psychosociales, ici, là-bas, tout ce que vous voulez. Hey, c'est compliqué, là. Ça en coûte de l'argent, je vous le dis, c'est cher. Mais le Seigneur a pourvu. On était au camp des boulots en train d'enseigner. Puis le dimanche qu'on était supposé, que j'étais supposé d'être ici, voilà, 6 semaines, là, à peu près, là. On était supposé être avec la famille. Mais on était dans l'avion ce matin, là. Vers le Honduras. Mais le mardi de cette semaine-là, il y a un homme d'affaires de Sherbrooke qui a décidé de payer nos billets d'avion. Rien demandé, moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on se promène au Honduras. Quand on se promène au Honduras et qu'on voit des gens qui habitent dans des maisons faites avec des bouts de tôle puis des vieilles planches, puis qu'il n'y a pas de moustiquaire à l'invite, puis qu'il n'y a pas d'eau courante, qu'il y a des enfants qui courent un peu partout avec des chiens, à travers de tout ça, puis c'est un petit peu intimidant parce que mon cœur était déchiré de voir ça. T'es dans un taxi, on arrête une lumière. Et savez-vous ce qu'il y avait comme voiture dans ce quartier-là, à côté de moi? Il y avait un gros SUV, Mercedes-Benz, diesel, 4 roues motrices, vide teinté, 2011. Ça doit valoir à peu près 200 000 piastres, ce véhicule. Et le Seigneur m'a rappelé ce texte. C'est impossible. J'ai dit, il voit même pas ce qu'il y a autour de lui. Il voit pas. Il est capable avec fierté de se promener dans son gros SUV dans un quartier comme ça. Va te cacher avec ton SUV. C'est à ta honte. J'aimerais terminer sur ceci. Sur une définition qui vous laissera en réflexion. Parce que je ne crois pas avoir tous les morceaux du casse-tête. Mais j'aimerais vous laisser sur une question pas tout à fait répondue. Avec une petite histoire. Un énigme un peu sur la bonté de Dieu. Qu'est-ce que la bonté de Dieu? Parce que pour pouvoir être libre des richesses, libre de ce qui nous entoure pour pouvoir servir le Seigneur, il faut comprendre la bonté de Dieu. J'aime définir la bonté de Dieu ici. Étant donné qu'on a adopté des petits-enfants, j'imagine un petit garçon ou une petite fille de 7 ou 8 ans qui a justement grandi dans une famille où on lui a enseigné les valeurs de Jésus-Christ. Et que par un concours de circonstances horribles dans son pays, papa, maman, frères et sœurs se font tuer par la violence ou par un nettoyage ethnique. Ça se passe dans le monde de toute façon. On n'invente rien ici. Et que cet enfant se retrouve seul, complètement seul, sans personne pour l'aimer, sans savoir s'il va être en vie demain, sans nourriture, et est capable de regarder au ciel et de dire, Dieu est bon. Voilà la sorte de bonté de Dieu que j'aimerais que nous puissions connaître. La bonté de Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Une bonté de Dieu qui ne dépend pas du contexte. Une bonté de Dieu qui dépend seulement, uniquement, à 100% du fait que Dieu a choisi de ne pas me juger, mais plutôt de m'aimer par le sacrifice de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur Jésus, cette liberté à laquelle tu nous appelles, elle est impossible pour nous. Il est impossible pour nous de la vivre. Elle est complètement inaccessible à notre cœur humain. Merci, bon Père Céleste, d'avoir choisi d'envoyer Jésus pour pouvoir nous libérer de cet esclavage. Nous voulons connaître ta bonté comme nous devrions la connaître. Nous voudrions être saisis par ton amour comme Zachée a été saisi par ton amour. Et nous voudrions être à ton service à 100%, sans aucune chaîne qui nous retienne. Et Seigneur Jésus, tu sais combien dans l'Église il y a de la jalousie. Combien est-ce que certaines personnes envient la situation de d'autres, bien que nous puissions être libres de cela, que nous puissions être satisfaits de ce que tu nous donnes, que nous puissions être contents d'être qui nous sommes, parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Merci de nous avoir rencontrés ce matin, et je te prie d'une façon spéciale de nous diriger, de nous bénir, et de permettre que l'Église de Trois-Rivières puisse, par ta grâce, te suivre comme Zachée a choisi de te suivre, en te donnant tout ce que nous avons. Pour ta plus grande gloire, nous te prions, Seigneur Jésus. Amen.